Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Direction ce midi, le rendez-vous annuel du Collège culinaire de France et son grand marché complice. De quoi rencontrer quelques artisans culinaires et leur demander ce que signifie pour eux et pour elles être un ou une artisan militant de la qualité aujourd'hui et demain. Une gastronomie remplie d'histoire. Premier rendez-vous avec Christian Regoubi, le directeur général du CCF, le Collège culinaire de France. Christian Regoubi, bonjour.
Bonjour.
Il faut d'abord que vous nous présentiez, non pas l'endroit où nous sommes, au Grand Contrôle, à Paris, mais le Collège culinaire de France, dont vous êtes le délégué général. Un collège qui a été créé en 2011, je crois.
Tout à fait, créé en 2011 par 15 grands chefs fondateurs. Dans l'esprit de développer tout un courant sur la gastronomie artisanale à travers une action entre guillemets, on va dire militante, hein, c'est-à-dire partant du terrain et non pas partant des grands chefs très très connus. Partant du principe que nous avons en France une richesse absolument inimaginable dans la diversité des régions, dans la diversité des produits, dans la diversité des cuisines. Et que cette richesse, comment l'exploiter, comment l'imposer face à l'industrialisation et la standardisation de la nourriture.
C'est une vision du monde que vous prenez ?
Derrière, il y a une vision du monde réellement, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le monde, d'une façon générale, se nourrit de deux façons. Cette industrialisation et cette standardisation qui a permis de donner accès à beaucoup de la nourriture, c'était vrai, c'est vrai, et également avec des prix bas. Sauf que on constate aujourd'hui que cette vision et cette démarche détruit plus qu'elle ne produit. Elle détruit notre santé, elle détruit la santé de la planète, elle détruit aussi une forme d'économie, de culture, d'éducation. Qui est lié à faire de la nourriture une marchandise, alors que la nourriture est avant tout une culture. Et on parle d'exception culturelle pour le cinéma, mais il faudrait peut-être parler d'exception culturelle pour la nourriture. Il en va, à notre avis, de la survie de l'humanité.
Vous dites que l'industrialisation de notre société a permis, à juste titre, un accès plus large à la nourriture et à des prix bas. Est-ce que le grand pari de demain, même peut-être d'aujourd'hui, hein, Christian Regoubi, ça n'est pas de permettre un accès et des prix bas, mais de qualité à tout le monde. Et donc d'avoir votre vision du monde, mais de l'adapter au plus large de la population, puisque on le sait, hein, l'industrie, c'est quand même 80% de la façon dont on se nourrit aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas renverser les choses quand même ?
Alors, pour répondre précisément à votre question, il faut d'abord lever une imposture. Le prix bas est très attractif, bien évidemment, et on dit bah, les pauvres gens ne peuvent pas se nourrir. Mais d'abord, comme le dit un de nos chefs fondateurs, qui a décidé que le chou farci était moins bon que la langouste ? Qui a décidé que le saumon, et qui aujourd'hui est produit de manière industrielle, de manière dramatique sur le plan de la santé et de la planète, devait être un bien accessible à tout le monde, alors que ça n'est plus bon du tout ? Donc vous voyez, il y a un décryptage, mais bien évidemment, l'industrialisation de la nourriture n'a aucun intérêt, ni de près ni de loin, à vous donner cette transparence. Ça, c'est le travail de Manger Citoyen, notre association, et c'est le travail du Collège culinaire de France. Il ne suffit pas d'être un artisan pour produire de la qualité, il faut éduquer à la qualité. Michel Guérard, que j'adore et qui vient de disparaître, disait « Il faudrait apprendre à manger comme on apprend à lire. » Tout part de là. Les écoles devraient éduquer à manger. Les parents n'éduquent plus à manger. Puisqu'en général, les enfants, les ados mangent dans leur chambre, chacun avec des repas déstructurés. C'est pour ça que nous avons inventé les tablées citoyennes qui réunissent maintenant dans la convivialité pour apprendre à manger, tout simplement.
Je vous reprends également sur le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, qui était le terme de gastronomie artisanale, qui part du terrain, avez-vous dit. Ça veut dire que le Collège culinaire de France fait un tour de France, des territoires, et va repérer les artisans dit de qualité, selon vous, selon les critères que vous allez nous donner, pour pouvoir dire, oui, vous, vous avez le droit d'intégrer le collège, c'est ça ?
Absolument, absolument. Nous ne faisons pas le Tour de France, nous travaillons beaucoup par bouche à oreille aujourd'hui. Donc c'est ça la démarche, c'est l'expérience de la relation humaine, et d'aller chercher partout en France, ou en tout cas de susciter des demandes d'adhésion, partout en France, de personnes qui font ce travail. Et c'est d'autant plus important que très souvent, elles sont seules. Elles sont passionnées par ce qu'elles font, mais elles se sont pas mises en collectif. Donc, ce que nous efforçons de faire, c'est de les mettre en collectif et surtout de les faire se rencontrer.
Et donc, la qualité, les critères, c'est quoi ?
Alors, le premier des critères, il faut que le candidat présente son identité, non pas sa carte d'identité, mais je suis qui ? Je me bats pour quoi dans la vie et c'est quoi ma passion ? Je suis restaurateur. Pourquoi je suis restaurateur ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux faire de mon restaurant ? Le deuxième critère, c'est la totale transparence. Dire comment vous faites les choses, pourquoi vous faites les choses. Le troisième élément, c'est qu'il faut que nos membres aient envie de coopérer. C'est pas chacun dans son coin. C'est pour ça que nous ne sommes pas un label avec des critères. C'est formidable ce que vous faites. Il n'y a pas de jugement de valeur. Simplement, j'ai envie de travailler avec vous. Et pour travailler avec vous, il faut que je rentre dans votre métier. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont fondamentaux.
On est dans un marché complice. Je voudrais juste que vous nous disiez, pour terminer, ce qu'est un marché complice et comment sont organisés les marchés complices dans toute la France.
Alors, les marchés complices, qui prennent de plus en plus d'ampleur, sont organisés spontanément par nos membres, hein, qui ont envie, sur une région donnée, dans un village donné, de créer un marché avec des restaurateurs et des producteurs. Donc, c'est pas simplement un marché de producteurs, c'est un marché qui doit pouvoir démontrer au grand public comment le producteur et le restaurateur travaillent. Alors, on a plusieurs... Rien n'est encore complètement normé, mais on va de plus en plus vers ce type d'expérience. C'est une démonstration in vivo de la réalité de ce que nous faisons entre professionnels au sein du collège.
Et de la dimension collective que vous revendiquez. Un grand merci à vous, Christian Regoubi. On va vous laisser déambuler, on va aller nous-mêmes à la rencontre des artisans producteurs et des artisans restaurateurs.
Merci pour votre échange.
Vous faites goûter votre basilic poivre vert ?
Je peux vous faire ça. Sentez toujours une herbe avant de la manger.
Il sent beaucoup le poivre vert.
Oui, ça sent beaucoup, oui. Et là, vous allez avoir une mâche un peu plus importante, une feuille plus épaisse. Et là, vous avez la subtilité du poivron vert qui arrive derrière.
Bonjour Sébastien Argentin.
Bonjour.
On est sur votre stand Maison Argentin. Et d'ailleurs, on ne peut pas se tromper parce que devant, vous avez fait une installation végétale. Vous nous présentez ce que vous mettez là devant nous là ?
Eh ben, du coup, nous, on est sur le Havre et on s'est spécialisé dans les herbes aromatiques. On en fait 45 variétés. Voilà. Et donc, du coup, on a travaillé énormément sur la régularité des produits, chose qu'on perd un peu partout. Donc,
c'est quoi la régularité ?
C'est-à-dire une coriandre. Le chef, s'il a besoin de 30 grammes dans sa recette, chez nous, il va pouvoir toujours faire 30 grammes dans sa recette tout au long de la saison. On va planter toutes les semaines. Donc, on a une régularité. On cueille toujours dans de la tendre et pas de la repousse qui est de la repousse qui est de la repousse, ainsi de suite. Donc, la tendresse, voilà. Donc, on a énormément travaillé tout ça. La déperdition de l'eau, on a vraiment travaillé sur l'économie de l'eau. Maintenant, on est même autonome en électricité. On a installé des panneaux solaires partout. Donc voilà, le but est d'être le plus verte possible. On est en serre froide. Donc quand c'est la saison, c'est la saison. Quand c'est plus la saison, c'est plus la saison. Voilà, on passe sur autre chose. Et aujourd'hui, c'est la nature qui va nous diriger et non le contraire. Enfin, en tout cas, nous, on travaille comme ça. Et donc, on ressource des variétés qui sont faites pour notre terroir. Moi, je suis à 400 mètres en vol d'oiseau de la mer. On a un microclimat, donc moins de gel, mais on va moins vite avoir la chaleur, mais moins les coups de chaud. Donc on adapte, il y a des produits, on arrive à les faire chez nous, des produits, on n'arrive pas, on a essayé, mais on n'y arrive pas. Voilà, donc on a vraiment, vraiment bossé là-dessus. Et puis du coup, pour avoir des produits un petit peu qui changent de l'ordinaire, là cette année, on a donc la tagette passion, on va dire, là, que j'ai fait venir du Pérou, parce que c'est notre souche, et c'est juste magique. Et là, on a essayé le basilic poivron vert, voilà. Et là, c'est pareil, c'est des produits qui sont bons, faciles à travailler, c'est original en plus. Et voilà, donc voilà, on essaye toujours d'innover, mais en restant dans notre terroir, dans notre culture, dans notre Normandie.
Depuis quand êtes-vous au Collège culinaire de France ?
Ça fait 7 ans que je suis au collège. Donc on est dans les piliers maintenant, on était dans les premiers, voilà. Et du coup, référent pratiquement aussitôt. Et il y a un plaisir d'échanger, de faire valoir la joie de notre Normandie, de mettre en avant tout le monde, de créer des liens, faire des produits ensemble, faire des collabs. Et je pense que c'est le futur de n'importe quel métier aujourd'hui. Tout seul, on n'est rien. Et tout le monde ensemble, on va tous s'aider. Il y en a un qui est moins bien, allez, on va faire un truc ensemble. Et aujourd'hui, je pense que l'humain, on ne le met pas assez en place. Et pour moi, ça devrait être la chose numéro une, quoi. N'importe quel bon professionnel qui est dans son coin et qui s'ouvre pas, personne ne va venir le voir. Mais c'est vice-versa, c'est pareil. Un chef qui va rester dans sa cuisine avec ses idées reçues, si on ne s'ouvre pas, il va toujours faire la même chose. Et à un moment, on s'ennuie. Nous, aujourd'hui, comme là, des échanges avec tous les producteurs, mais je dis toujours, c'est même c'est des collègues, c'est pas des concurrents. Mais on est là pour échanger, trouver des combines, des astuces, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Et c'est comme ça qu'on va monter la qualité vers le haut. Donc aujourd'hui, on est transparent envers notre clientèle en disant, vous voyez, nous, on produit, c'est vrai, c'est chez nous, vous avez vu, on vous fait voir, on vous fait goûter, on vous donne l'histoire du produit. Et quand vous avez le pêcheur qui vous dit, oui, j'ai pêché le maquereau, là, il y a 5 km des côtes, c'est le chef qui est à 3 km qui l'a cuisiné devant vous, ainsi de suite, vous voyez, l'histoire, elle est... Donc tout seul, on peut pas. Donc là, nous, aujourd'hui, notre but, comme une journée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu avec les chefs pour avoir les tendances de l'année prochaine, ainsi de suite, pour nous aiguiller sur la production. Voilà, donc du coup, plus personne ne va faire de basique l'année prochaine, on va en produire moins. Par contre, on va accentuer ça. Donc, pas de perte. Donc c'est notre métier, c'est aussi d'anticiper tout ça. Après, comment pousser les choses plus loin si vous avez une bière qui est faite, par exemple, avec l'estragon, fruit de la passion, le brasseur, lui, il a un super produit, il va nous mettre en avant. Et à la fin, on fait tourner. Là, on a fait une liqueur de menthe avec une distillerie havraise. Ça marche du feu de Dieu. On est un des rares, je pense, à avoir fait de la liqueur de menthe avec de la menthe fraîche. Voilà, mais il y a tout un travail de distillation, de niveau de distillation, ainsi de suite. Mais même pour moi, c'est hyper enrichissant. Donc mon produit, j'arrive à le vendre différemment, on arrive à expliquer aux gens, les gens le voient autrement. Et c'est ça aujourd'hui, c'est d'avoir l'œil de tout le monde, quoi.
Merci beaucoup Sébastien Argentin.
Merci à vous.
On continue notre petit tour. Eh bien bonjour Michaël Lévy-Yvoz et Ariane Aubert. Alors l'un est chef, l'autre est productrice, maraîchère, oui. Je crois. Vous êtes tous les deux en Alsace. Je ne sais pas si vous habitez à côté, mais en tous les cas, vous travaillez ensemble.
Oui,
alors vous, Michaël Lévy-Yvoz, vous tenez un restaurant qui est un bistrot, qui fait bistrot, culture, gîte, qui s'appelle le Spes.
Qui s'appelle le Spes, gîte un tout petit peu. Culture par rapport à ma femme qui est chanteuse lyrique. Du coup, on fait un concert par semaine. Et bistrot, parce que moi, je suis restaurateur et puis que voilà, quoi.
Et racontez-nous, Ariane, vous, qu'est-ce que vous faites comme légumes? Est-ce que vous faites d'ailleurs exclusivement des légumes ou aussi des fruits?
Alors moi, je suis installée avec mon mari en Alsace. Ça fait maintenant 4 ans. On est des néo-paysans. On produit toutes sortes de légumes, maraîchage diversifié. On vend des paniers aux particuliers et on travaille avec des restaurateurs en parallèle. Ça nous intéresse parce qu'on a deux modes de fonctionnement différents avec eux. Puis c'est toujours très, très intéressant en fait d'avoir ces deux plans-là. Le côté particulier, on y tient très fort parce qu'on a quand même fait ce métier pour nourrir. Et on voulait vraiment pouvoir nourrir les gens directement. Maintenant, c'est hyper inspirant de bosser avec les restos. Et on a la chance d'avoir plusieurs bons restos et super chefs à côté de nous qui sont dans ce sens-là. Et donc on en profite. Et donc on produit tous les légumes toute l'année, tout ce qu'on peut en tout cas, sur 2 hectares. Avec la quasi-totalité en travail manuel, on est non mécanisé, avec le moins d'intervention sur notre sol possible. On travaille selon les pratiques de maraîchage sur sol vivant. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de nourrir notre sol pour que ce soit lui qui vienne nourrir nos légumes. Aucun apport d'engrais par la suite. On travaille avec tous les apports de matière organique et vraiment se concentrer sur notre sol pour que lui nourrisse des légumes et qu'il en fasse ce que ça donne. C'est-à-dire, mine de rien, ça, c'est ce qui est reconnu par tout le monde. Des légumes qui ont un goût assez puissant et une super conservation. Ensuite, derrière, reste à prouver les qualités nutritives, mais ça, c'est des mesures un peu plus poussées et on n'en est pas encore là.
Comment vous vous êtes rencontrés avec le chef Michaël Lévy-Yvoz, par exemple ?
Typiquement, Michaël, ça fait partie des chefs qui vient à la rencontre des producteurs. Et donc, quand il est arrivé avec sa femme à Andlau pour ouvrir le Spes, ils se sont renseignés sur qui étaient les producteurs du coin. Et les gens les ont aiguillés vers nous, on s'est rencontrés. Et puis après, en plus, l'accroche humaine s'est faite très vite. Et là, ça développe des très jolies choses, quoi.
Michaël, qu'est-ce qui vous plaît dans le travail que fait Ariane ? En quoi il vous inspire ? Et en quoi la relation que vous avez ensemble est-elle vraiment vertueuse pour vous ?
C'est pas vraiment ça. Enfin, de savoir à peu près quand même par rapport aux saisons ce qui arrive, mais c'est quand même sympa chaque semaine de se dire petite chose qui change, une chose qui s'en va, un autre produit qui arrive. Et du coup, de pouvoir modifier ses recettes au gré d'eux, et c'est ça qui est agréable, en fait.
Comment ça se passe entre vous ? Est-ce que vous proposez à Ariane en disant, voilà, là, j'ai une courge, elle est exceptionnelle, et le chef dit, ah ben oui, ça me plaît bien, je vais voir ce que je peux faire avec. Est-ce que c'est vous, Mickaël, qui dites à Ariane, bah, j'aimerais bien faire un truc avec une courge ? Enfin, racontez-moi comment vous faites, quoi.
Ouais, après pour moi c'est un peu dans les deux sens de mon ressenti, mais c'est vrai que nous on a une gestion du jardin, comme on est en petite surface et on est des petits producteurs, on a quand même une gestion du jardin qui fait que tout n'est pas toujours disponible. On prévient nos clients, que ce soit les particuliers ou les restaurateurs, chaque semaine en fait, des disponibilités, de ce qu'on va pouvoir faire pour eux et suivre. Et eux, les restaurateurs, donc quand c'est Mickaël, va beaucoup s'adapter à ce qu'on a. Ça peut arriver qu'on ait un raté sur quelque chose et une série à sortir en urgence. Il fait partie des gens qu'on va pouvoir appeler et qui, lui, va pouvoir créer un menu derrière et jouer avec. Ça, c'est hyper réconfortant pour nous d'avoir un restaurateur comme ça. Et parfois, il va avoir une demande particulière, on peut y répondre ou pas.
Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple, à partir des légumes d'Ariane ?
Un tartare de betterave, mais assaisonné un peu comme un tartare de bœuf. Sans pour autant partir dans l'ersatz, parce que je trouve que c'est un peu l'ersatz du végétarien, je trouve que c'est un peu chiant. Mais je trouvais ça rigolo parce qu'on est sur une couleur viande quand même, donc c'est un peu marrant. Et une soupe de courge toute simple, juste assaisonnée. Je la pimente toujours un peu et un peu de gingembre. Et juste en partant avec les courges qui, pour le coup, avaient été soit cassées avant de venir ou des choses comme ça, faire un velouté avec pour les valoriser aussi. Et puis il est là.
Merci beaucoup, Mickaël. On va goûter quand même votre réalisation du jour. Elle est là, Alix aussi.
Elle est en train de cuisiner. Elle est dans l'huile bouillante des pitas de Kalamata qu'on fait frire pour aller joindre une crème infusée au thé de chez Émile Thé en Bretagne, avec un oignon caramélisé au lichen de notre jardin, sous un sel de navet de notre jardin aussi, et un vinaigre de kvass. Le kvass étant une fermentation à partir de vieux pains à l'ukrainienne que l'on vient joindre ici pour avoir quelque chose un peu acidulé.
On aura le droit de goûter après ?
Vous aurez le droit de goûter, c'est promis.
Ah là là, ça va vous donner envie là. Nous partons maintenant en Occitanie, entre Rodez et Bozouls, à Besogne, où nous allons rencontrer Alix et Antonin Ponce de la table 42. Alix et Antonin Ponce-Bellegarde, bonjour.
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 Selon vous, qu'est-ce que vous faites qui, aujourd'hui, vous permet d'être membre du Collège culinaire de France ? Et qu'est-ce que vous défendez, vous deux ? Vous êtes chef, Alix, et vous êtes chercheur, Antonin. Voilà, qu'est-ce que vous faites ?
S'il fallait mettre trois mots dessus, peut-être à la hache, mais humble, c'est une cuisine qui part des pieds. Une forme de recherche-création. L'idée, c'est d'archiver le paysage comestible qui nous entoure. Et une forme de fidélité. L'idée, c'est de travailler à 42 km à la ronde de notre restaurant avec un tissu de compagnons de route qui, tous les jours, nous propose ce dont il dispose de meilleur. Et nous, composer en fonction.
L'identité qu'on vient chercher dans ce projet, j'ai vraiment l'impression que c'est... Avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut défendre, il faut être radical, il faut, je crois, aller chercher quelque chose qui n'existe plus parce que tout est trop difficile à vivre. Il faut protéger la nature, il faut être près les uns des autres. C'est un projet qui est extrêmement humain. Et je crois que l'identité que nous, on va chercher dans l'assiette, c'est évidemment le partage, mais c'est surtout le respect de l'autre. Le respect des producteurs, le respect de la nature et d'essayer de polluer le moins possible, d'essayer d'aller vers l'humain.
La table 42, c'est avant tout un projet très fort. Vous travaillez avec des producteurs et des productrices à 42 km à la ronde et ça, c'est très important. Ça donne évidemment son nom à votre projet, à votre table, parce qu'il y a le projet et puis il y a la table. Mais j'ai lu sur votre site qu'à Besogne, la table 42... C'est à la fois un restaurant, une épicerie, une boulangerie, une cave à vin, un salon de thé, d'autres choses encore, j'ai pas tout noté. Donc le projet et la table, c'est tout un ensemble.
Et c'est un projet qui de l'extérieur a l'air dantesque, ramifié, excessif presque, mais qui, lorsqu'on le vit, nous, au quotidien, est simplement cohérent. Cet embryon, nous n'avons que 2 ans d'ouverture, cet embryon d'alimentarium qui est celui qu'on défend au quotidien, c'est d'essayer de comprendre. Tout à l'heure, Célia Tung parlait de ce que l'on considère comme étant l'intelligence de la main aujourd'hui dans ce monde d'artisans. Il y a un quelque chose de l'ordre de l'intelligence du paysage, et l'assiette est une entrée dans cette intelligence du paysage-là.
Ça nous donne énormément de force, je crois, le fait d'être confronté à la nature, de s'obliger à aller en cueillette, de s'obliger à les rencontrer. On a démarré le projet avec de l'archive en allant taper aux portes pour aller demander aux grands-mères et aux gens du village ce qu'ils avaient l'habitude de cuisiner, comment ils le travaillaient, qu'est-ce qui avait disparu, pourquoi, qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qu'ils pensaient qui était cohérent. Et je crois qu'Antonin cite souvent ses grands-parents qui étaient des paysans, vraiment qui n'avaient rien, ils produisaient tout, sauf le sel et les allumettes, et ils allaient à Rodez une fois par an uniquement pour aller chercher ça. Et je crois qu'il faut s'autoriser à être heureux et à se contenter de ce qu'on a autour de nous. C'est un projet qui prouve que c'est possible. On n'est pas obligé d'être toujours allé chercher plus. En fait, on peut créer des choses avec ce qu'on a là. Moi, j'ai un tropisme pour les épices parce que mon grand-père était indien, marié avec une bretonne, mais du côté de maman catalan. Et du coup, il y a quand même cette mixité. Mais la nature, le respect de l'autre, de se dire que c'est un projet où on est heureux de voir les enfants grandir en se disant on essaie de leur amener quelque chose qu'ils vont garder pour essayer de respecter ce qui vient après.
Oui, quoi de plus politique que manger, accueillir, rencontrer? Une des grandes victoires, si je puis dire, après ces quelques premiers mois depuis 2 ans, c'est que la grande table partagée du restaurant, une dizaine de convives, soit métisse. Et qu'il y ait autour de cette table, tous les midis, tous les soirs, autant de gens du coin, parce que les prix sont militants, parce que c'est accessible, parce que le premier plat, c'est l'accueil, que de gens qui, aujourd'hui, nous font l'honneur de venir de l'autre bout de la planète pour prendre le temps de s'enforester, comme dirait Morisseau, de s'enruraliser à nos côtés pour une bulle hors du monde. Et à l'heure où le repli frappe aux portes, de comprendre que le local, c'est le métissage des racines. C'est un combat qui nous remplit de bonheur au quotidien.
Alix et Antonin Ponce-Bellegarde, merci beaucoup.
Merci, avec plaisir.
Avec plaisir. Merci.
Au revoir.
Je t'envoie un mail ou qu'est-ce qui est plus simple?
Oh non, tu m'appelles.
Ouais, je t'appelle.
Parce que le mail, il va passer à la fin.
Ça marche, ok. Voilà.
Moi, j'aime bien le...
Merci, mais ça s'appelle comment?
L'estragon fruit de la passion.
Tagette
fruit de la passion.
Et pour finir, nous avons rendez-vous avec des visiteurs venus voir à quoi ressemble ce grand Raoult. Séverine et Arthur Payès, qui sont tous les deux restaurateurs. Ils tiennent le Bouche à Oreille, qui est un bistrot culturel à Simore, dans le Gers. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Déjà, j'aimerais que vous nous parliez de votre bistrot à Simore, le Bouche à Oreille, que vous nous disiez quelle était l'envie de départ. Je crois que vous avez ouvert ce restaurant, c'était un premier engagement de votre part, dans le dernier bar du village qui allait fermer. C'est pas rien.
Oui, c'est ça. On a racheté le dernier café de village auquel on a rajouté une activité de restaurant pour que le village continue à avoir un lieu de vie sociale.
Bistrot culturel, ça veut dire quoi?
Bistrot culturel, ça veut dire un lieu qui fait revivre le territoire et qui essaye de trouver dans toute chose qu'il y a dans le territoire où est-ce qu'on a une culture commune et comment on peut l'enrichir et tout ça. C'est aussi des concerts, concrètement, des concerts tous les samedis, des expositions, mais aussi la culture de l'alimentation, l'éducation populaire de l'alimentation.
Dans le couple, je crois que c'est vous, Séverine, la chef. C'est vous qui cuisinez. Vous faites, dites-vous, une cuisine engagée. Ça veut dire quoi?
Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Donc, je veux dire, c'est une cuisine qui prend du temps. C'est une cuisine qui se fait à partir des produits qui sont à disposition à côté de chez nous. Parce qu'on travaille qu'avec des producteurs qui sont à moins de 30 km. Et donc notre engagement, il est là, c'est de soutenir déjà des gens qui produisent sur place et qui essayent d'en vivre. et ensuite bah, d'en faire des choses les meilleures possibles, qui se travaillent, qui se mijotent, qui s'infusent, qui se fermentent. Voilà, c'est l'engagement de donner de la valeur à tout ce qui se fait autour de chez nous.
Sur ce marché complice qui fait la part belle aux artisans, producteurs et restaurateurs, vous êtes donc des visiteurs, vous n'êtes pas exposants. Est-ce que vous venez chercher quelque chose de particulier quand vous venez ici ?
Ce qu'on vient chercher, c'est le réseau. C'est-à-dire que c'est important de sortir de nos lieux. C'est des lieux qui prennent beaucoup de temps. On est tout le temps, on est 75 heures par semaine dans nos lieux. Et du coup, il y a besoin en fait, de pour se rendre compte aussi de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait, de rencontrer les autres et de discuter avec eux, autant avec les producteurs qu'avec des restaurateurs, et de voir... où ça en est. Mais ceci dit, avec le collège culinaire, on est aussi allé au Japon, et le collège culinaire du Japon, on a rencontré des producteurs du collège culinaire du Japon, donc c'est aussi aller voir ailleurs, des fois très loin.
Il a ouvert quand, le bouche à oreille, Séverine ?
Eh bien, on va fêter nos 15 ans l'année prochaine.
Et depuis quand êtes-vous membre du collège culinaire de France ?
Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, 3-4 ans, je pense. Ça ouvre des horizons, des possibles, et puis ouais, ça donne de l'air pour voir ce qui se fait ailleurs. Ça crée du réseau, ça fait qu'on se sent moins seul, qu'on se dit qu'on a des gens avec qui partager des convictions et des valeurs communes.
Vous dites que ça fait 15 ans que vous êtes au bouche à oreille. Vous trouvez que c'est plus dur aujourd'hui et vous vous sentez plus seul ?
Ce qui est plus difficile en tous les cas, c'est que les habitudes des gens ont changé, donc ça nous impose de nous re-questionner sur... qu'est-ce qu'on propose, etc. Et c'est ça aussi dans l'engagement qui est un peu... qui est une partie d'engagement, c'est qu'en fait, nous, on s'adapte aux producteurs. Du coup, on a un menu unique. Et c'est la manière de faire comprendre aux gens pourquoi on a un menu unique, que c'est pas parce qu'on a un ego surdimensionné de « on va vous proposer la meilleure cuisine du monde », mais c'est parce qu'en fait, on s'adapte aux producteurs et on lui demande pas des quantités particulières. Il nous livre ce qu'il a et on fait un repas en fonction, quoi, en fonction de ce qu'il y a.
Alors, je vais me tourner vers la chef. Il y a quoi en ce moment au menu unique, à la carte ?
Au menu, c'est forcément les choses de saison du moment. Donc là, on est à cheval un peu. C'est la période encore un peu chouette, à cheval entre fin d'été et début d'automne. Donc, on a encore quelques haricots verts et les dernières tomates. Et en même temps, les premières courges, les panais qui arrivent, les premiers salsifis. Encore pas mal d'herbes aromatiques. Donc, ça fait un joli mélange. Moi, j'aime bien les intersaisons pour ça. Voilà.
Il y a un plat ou une entrée ou un dessert que vous pourriez nous donner ?
En ce moment, moi, j'aime beaucoup travailler un mesclun d'un producteur qui fait partie du collège culinaire, d'ailleurs, qui s'appelle la Vallée des Deux Sources, qui est à Verlus, et qui fait un mesclun d'herbes aromatiques absolument merveilleux et que je mélange avec des sauces, que je travaille avec des huiles infusées de verveine, de tagette... En vrai, ça a l'air tout simple dans l'assiette, mais en aromatique, ça explose, quoi.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Séverine et Arthur Payès, du restaurant Le Bouche à Oreille, dans le Gers, à Simor. Merci, et puis bonne balade. Toutes les informations sont à retrouver, bien sûr, sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses, avec la collaboration de Siam Boutata et Taïsia Froidur à la réalisation. Excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Un peu plus par là-bas. Okay.